Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'écouter. Donc, mon intervention en fait est tirée d'un travail de thèse de doctorat à l'EHESS, en anthropologie sociale et historique. En fait, il arrivait à point nommé, puisque bon, c'est un travail que j'ai terminé en 2017, à l'heure où la maîtrise des populations de sangliers était, enfin, est toujours d'ailleurs, un objectif prioritaire dans les politiques publiques, c'est-à-dire la maîtrise des populations de sangliers. Ça va bien à l'écran, oui? La maîtrise des populations de sangliers et de grands gibiers devient un objectif prioritaire dans les politiques publiques. Et les paramètres qui sous-tendent les logiques à la fois cynégétiques ou administratives m'avaient paru intéressants à étudier du point de vue de l'anthropologie sociale. Et bon, ben, je vais essayer de vous donner quelques éléments dans ce sens. J'interviens donc en tant que chercheur associé au LIST, au Centre d'anthropologie sociale à l'Université de Toulouse, mais je suis par ailleurs directeur d'une fédération départementale des chasseurs, en Lot-et-Garonne précisément. Donc, ce qui situe un petit peu aussi mon positionnement. Je cherche le. Ah, voilà, la diapo d'après. Ah, faut faire on. Non, mais je peux faire avec les flèches aussi, en fait, ça devrait aller très bien. Ah non, ah oui. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, en fait. Bon, ça a déjà été un petit peu dit. On est confronté à une importante augmentation des populations de grands gibiers par de la grande faune sauvage de plaine, cerf, chevreuil, sanglier, qui dans les 35 dernières années a connu un développement, pourrait dire, exponentiel et qui réellement confronte les pouvoirs publics à une situation qui peut être préoccupante parce qu'il y a une incidence qui est forte sur les productions agricoles, sylvicoles, mais même en termes de sécurité routière, de perturbations dans les zones urbaines. Donc voilà, c'est une problématique qui est de plus en plus prégnante. Et au moins pour le sanglier, ce phénomène est connu partout en Europe. Donc ça ne concerne pas uniquement le territoire français. Alors, il y a des gens qui sont ici certainement beaucoup plus compétents que moi pour en parler, mais développement exponentiel des populations de sangliers, certainement rapproché de facteurs favorisants comme le développement de cultures céréalières, en particulier le maïs, partout en Europe, la présence aussi de cultures en hiver comme de la moutarde qui offrent un couvert dans des zones où, jusqu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas de sangliers et pas de couverts hivernaux pour les abriter. Réchauffement climatique aussi qui se fait sentir quand même avec des hivers moins rigoureux et des sangliers qui donc ne sont plus soumis à des mortalités hivernales dans les zones où ils y étaient soumis avant. Problème aussi de fructification forestière, enfin je ne sais pas s'il faut dire problème, mais en tout cas une conséquence peut-être du réchauffement climatique avec moins de gelées et moins d'hivers rigoureux et des fructifications forestières plus importantes, plus abondantes. En tout cas des populations de sangliers qui se sont réellement développées, en sachant que en France, les chasseurs, pour pratiquer leurs loisirs, s'acquittent de taxes, de cotisations, contributions obligatoires, qui notamment financent l'administration et toute l'organisation de la chasse, de la gestion de la faune sauvage, aussi bien d'un point de vue administratif que scientifique et technique, alors pas en totalité, hein, en partie, mais dans une grosse proportion quand même. Toute cette organisation qui assure la connaissance et la gestion de la faune sauvage, la police de la nature également, hein, la police de la chasse et de la nature, qui est en très grande partie financée encore aujourd'hui, même s'il y a des projets législatifs en cours qui devraient revenir un petit peu sur ce point, mais en très grande partie financée par les taxes payées par les chasseurs. Et à la fin de ma petite diapo, l'indemnisation des dégâts agricoles, puisqu'en fait, en France, c'est une indemnisation administrative des dégâts à l'agriculture causés par le grand gibier, et elle est assumée à 100% par les chasseurs, et ça représente en moyenne chaque année une somme de 50 millions d'euros qui est financée, hein, uniquement sur cette base-là. Tant qu'on en est à parler de l'apport de la chasse, peut être intéressant de faire une petite explication sur La dernière enquête, dernière étude qui a été conduite il y a 2 ans par la Fédération nationale des chasseurs et qui mettait en avant des flux financiers, une économie de la chasse, des flux financiers générés par la chasse qui représentaient à peu près 3,9 milliards d'euros et 2,9 milliards de services écosystémiques ou d'apport à la biodiversité estimés. Mais je vais en revenir à l'indemnisation des dégâts agricoles causés par la faune sauvage, et, enfin, pas par la faune sauvage, mais par le cerf, le sanglier et le chevreuil, sont ceux-là qui sont indemnisés. Pour vous présenter un autre élément, qui est en fait une diminution de la population de chasseurs, des effectifs de chasseurs, qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle est continue depuis une quarantaine d'années, mais cette diminution des effectifs de chasseurs est assez forte, puisque on est passé en une quarantaine d'années de 2 millions de chasseurs à un petit peu plus de 1 million de chasseurs en France. Et ces chasseurs, en plus de diminuer, on constate un renouvellement des effectifs qui est de plus en plus difficile. Alors je ne sais pas s'il faut dire de plus en plus. Il a été de plus en plus difficile pendant un certain temps. Les choses ont tendance à s'inverser un petit peu, mais malgré tout, il y a un vieillissement de la population de chasseurs et des difficultés à recruter. Ce qui, finalement, a tendance à hypothéquer les capacités, sur le long terme, à hypothéquer les capacités des chasseurs, à la fois à réguler la faune sauvage, parce que, en absence de grands prédateurs naturels, et même s'il y en a dans certaines régions, ça ne suffit pas à réguler la faune sauvage. Donc le chasseur est l'unique régulateur de cette grande faune sauvage et en même temps presque l'unique contributeur pour le financement de toute l'administration de la chasse et police de l'environnement, mais aussi de l'indemnisation des dégâts agricoles. Et on pourrait en arriver à une situation qui serait assez difficile à gérer si les courbes continuent à évoluer dans des sens qui sont opposés, avec une population de chasseurs qui diminue et des densités de grands animaux qui continuent à augmenter. Alors, mon travail s'appuie sur un corpus en fait qui est à la fois qui s'est intéressé au droit de la chasse et aux politiques publiques sur un temps assez long, puisque mes premières analyses partent du Moyen-Âge. Il y a une partie beaucoup plus conséquente sur le 19e siècle et le 20e siècle, bien évidemment. Et un deuxième corpus qui concerne en fait une étude de terrain sur une trentaine d'équipes de chasse dans le sud-ouest de la France, dont je parlerai tout à l'heure. Pour ce qui est de la partie droit et politique publique, en fait, ce dont je me suis aperçu dans mon travail, c'est qu'il y a en filigrane, très tôt et dès le Moyen-Âge, en germe une administration de la chasse qui est à la fois très prégnante et qui est très contraignante avec des normes assez précises et qui le deviendront de plus en plus pour la protection du gibier et l'encadrement de la chasse. Et cette administration que, dans mon travail, j'ai appelée administration tripartite de la chasse qu'on connaît aujourd'hui, pour ceux qui ont lu à l'avance ce qui était marqué sur la diapo, c'est en fait quelque chose qu'on va se mettre en place essentiellement au XXe siècle, mais qui vraiment en germe bien avant, avec une gouvernance partagée entre l'État, un établissement public dédié qui est l'Office, aujourd'hui l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec un certain historique avec le Conseil supérieur de la chasse, puis l'Office national de la chasse ensuite. Aujourd'hui c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et les fédérations des chasseurs. Et en fait on a vraiment une administration de la chasse qui est partagée, et une gouvernance partagée entre ces trois intervenants qui sont l'État, l'établissement public et les fédérations des chasseurs. Fédération des chasseurs qui ont la particularité d'être des structures associatives représentant la chasse et les chasseurs, ayant des missions d'encadrement de la chasse et de gestion de la faune sauvage et de protection de la faune sauvage qui sont données par le législateur, puisque les missions des fédérations des chasseurs sont définies, précisées par le code de l'environnement et par des statuts qui sont imposés par arrêté ministériel, et donc les fédérations des chasseurs, qui sont à la fois des structures associatives émanant du monde de la chasse, sont chargées de missions de service public et disposent pour cela de prérogatives et de puissance publique. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez unique en Europe, enfin, c'est même pas assez unique, c'est unique en Europe. Et cette administration qui est de la chasse, qui est entièrement partagée entre l'État, l'établissement public et les fédérations des chasseurs, est unique aussi. Donc, c'était un des premiers constats de mon travail. Le second a été de m'intéresser à donc une trentaine d'équipes de chasse au sanglier dans le sud-ouest de la France, entre Périgord, Quercy et Ottagenais. Donc, pour ceux qui sont français, en tout cas, vous situez un petit peu la région. Et donc, je me suis surtout intéressé, anthropologie sociale oblige, aux praxis, aux fonctions, aux représentations symboliques, aux enjeux et aux rapports au sauvage et à la nature. En me disant que la connaissance et la maîtrise de ces paramètres qui sont étudiés par l'anthropologie sociale devaient être essentiels, notamment quand on parle de politique publique et de réussite des politiques publiques, parce que on s'adresse à des chasseurs qui pratiquent un loisir, une chasse pour le plaisir, et souvent, d'ailleurs j'ai été intéressé par l'intervention précédente, oui, mais le chasseur intervient en tant que régulateur de la faune sauvage. Personnellement, je crois que j'ai jamais vu un chasseur qui se levait le matin en disant je me lève et je vais réguler la faune sauvage. Je crois que j'en connais pas et j'en connais quand même pas mal. Effectivement, c'est un effet induit par la chasse. Il y a une régulation de la faune sauvage et il y a même beaucoup des services écosystémiques qui sont rendus par la chasse, puisqu'ils ont été même estimés à 2,9 milliards d'euros. Mais ce qui fait pour le chasseur l'envie d'aller à la chasse, c'est la passion qu'il a et c'est ce rapport à la nature. Et je crois que ça peut être souvent oublié et ça peut être une des causes d'échec de politique publique. Parce que si on oublie ce qui fait vraiment le ferment, ce qui donne envie aux chasseurs d'aller chasser et ce pourquoi il y va, ben on peut avoir beaucoup de mal à lui demander de chasser plus ou de chasser moins ou de chasser différemment. Alors si la diapo est arrivée. Pour vous présenter un petit peu rapidement ces équipes de chasse dans le sud-ouest de la France, on s'adresse à une chasse collective, populaire, villageoise, qui est très typique du sud-ouest de la France, qui pour le grand gibier est toujours pratiquée, enfin toujours entre guillemets, collectivement. C'est une chasse aux chiens courants, donc avec une meute de chiens qui ont une particularité de chasser, alors pour ceux qui connaissent la chasse, ça va être évocateur, pour les autres, beaucoup moins, mais qui est de chasser en suivant la piste de l'animal qui chasse, d'en chasser un seul et pas plusieurs à la fois, un petit peu comme à la chasse à courre, hein. Et ce qui caractérise vraiment le plaisir de chasse dans cette chasse-là, c'est le travail des chiens. Faire travailler les chiens, les voir travailler, les écouter travailler, parce qu'ils ont des chiens courants et leur particularité, c'est de s'exprimer vocalement, puisque les chiens, quand ils chassent, crient. On dit aboie dans le langage courant, mais dans le langage de la vénerie, on dit qu'ils crient. Et donc, pour le chasseur, cette voix est très mélodieuse et c'est un véritable plaisir d'écouter la mener et de laisser les chiens s'exprimer pendant plusieurs dizaines de minutes, des fois plusieurs heures, avant de se porter au-devant de la chasse pour prélever l'animal. Ce qui peut être d'ailleurs différent en termes d'approche d'autres manières de chasser. Soit dit en passant, c'est aussi ces chasses-là dans les petits villages ruraux du sud-ouest de la France, une permanence de vie sociale qui est assurée dans ces villages, parce que souvent il reste plus grand-chose à part l'équipe de chasse qui, le week-end, assure un petit peu d'animation dans ces villages-là et le reste de l'année organise des repas de chasse et un petit peu de vie sociale. Autre particularité de cette chasse, c'est qu'elle se déroule sur de vastes espaces, souvent dans des sociétés de chasse communales. Et donc, la notion de vaste espace est assez importante parce qu'on verra que dans d'autres cas, on est plutôt sur des espaces plus contraints, avec un respect des limites des territoires de chasse, ce qui n'est pas le cas avec cette chasse-là, puisque ben, par définition, pour s'exprimer, il faut que les chiens chassent très loin. Et, pour donner un petit exemple, un sanglier mené par une meute de chiens courants peut parcourir facilement 40 km, ce qui peut être difficile à réaliser sur, vous parliez tout à l'heure de territoires de chasse grands de 2500 hectares, ça sera plutôt des territoires de chasse petits dans le sud-ouest de la France pour voir s'exprimer une meute de chiens. Soit dit en passant, c'est aussi un mode de chasse qui se satisfait de densité d'abondance de sangliers faible, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour se faire plaisir à la chasse, ce qui n'est pas le cas forcément d'autres modes de chasse. Alors, je me suis intéressé à cette trentaine d'équipes de chasse du sud-ouest de la France. Je me suis intéressé également, à titre de comparaison, aux autres modes de chasse et aux autres pratiques, mais au-delà des pratiques, surtout à la manière de concevoir la chasse et le rapport à l'animal, au sauvage et à la nature, dans d'autres régions. Alors, un des modes de chasse les plus pratiqués, et notamment en France, effectivement, c'est la chasse en battue. Chasse en battue qui souvent est pratiquée pas avec des chiens courants mais avec des rabatteurs ou avec des chiens de courte quête comme des fox terriers, des teckels, des labradors ou des chiens d'arrêt qui ont quand même comme grosse différence avec une meute de chiens courants de ne pas pousser très loin le gibier mais juste de le débusquer et de l'amener jusqu'à la ligne de tir où il sera tiré et ensuite les chiens s'arrêtent. Enfin, quand tout va bien, s'arrêtent à la ligne de tir et reviennent à l'intérieur de l'enceinte, ce qui est assez différent de ce qui est pratiqué avec une meute de chiens courants. Souvent des territoires qui sont plus petits, ou en tout cas, là par contre, on est sur un respect des limites des territoires de chasse, avec des densités... Ah, j'ai encore 5 minutes, avec des densités de gibier qui sont un petit peu plus importantes, ou au moins dans le passé, mais avec une assez forte prégnance de la notion de gestion de la faune sauvage. Venons-en à quelques points qui sont importants sur le point de la symbolique. J'ai fini par définir une aire cynégétique latine qui en fait comprend la plupart du territoire français, où on s'aperçoit en fait qu'historiquement la chasse est un jeu duel avec l'animal chassé, presque une intervention contre le sauvage, entre guillemets susceptible de reconquérir un espace domestique et cultivé. Pas oublier que c'est une chasse qui est quand même avec des racines très paysannes, avec un animal qui est chassé en général et une chasse qui est collective, avec une meute de chiens courants, et ce qui a fini par m'amener à en fait démontrer dans mon travail que ben, la chasse à la française est typiquement la chasse aux chiens courants, dont la vénerie, la chasse à cour, est l'expression certainement la plus aboutie. Un autre point également, c'est qu'en Europe méridionale, on est sur une conception de la chasse qui est une cueillette aléatoire du gibier, et où le gibier, pour être... de qualité et sauvage, ce qui est la base de la chasse, ben, c'est un gibier qui va être insaisissable, rare et assez mystérieux, difficile à appréhender. Ce qui est en fait complètement opposé à ce qu'on rencontre dans l'ère cynégétique que j'ai définie comme germanique. Je vous montrerai une petite carte tout à l'heure. Donc, en fait, dans les régions germaniques et d'Europe centrale, on est plutôt sur une chasse individuelle et silencieuse, où l'observation du gibier préalable est très importante, avec un tir aussi, ce qui se fait sur un animal arrêté, avec un tir précis, et pas du tout une meute de chien qui le fait courir et qui le pousse très loin. Tout au contraire, avec un acte planifié dans la chasse. Et cette aire cynégétique que je définis comme germanique, n'attachez pas trop d'importance au petit rond rouge quand même, parce que j'ai eu du mal à le situer sur mon PowerPoint, donc il s'est baladé un petit peu. Hein. Mais bon, c'est évidemment l'Allemagne, Autriche, l'Alsace en France, et puis le nord de l'Italie, et ça se prolonge un petit peu en Europe centrale. Ce qui vraiment caractérise ces chasses-là, c'est un chasseur qui connaît, qui protège, qui gère son gibier sur son territoire, et on est vraiment à l'opposé des traditions de chasse dans le sud de la France, où on ne perturbe pas la quiétude de la forêt, et là encore une fois, c'est complètement à l'opposé de la chasse avec une meute de chiens courants, où la perturbation n'est pas le fruit de la chasse, mais l'intention même. On n'est pas du tout sur une notion de défense de l'espace cultivé, mais plutôt sur un remplacement de la sélection naturelle par la sélection du chasseur cynégétique, avec en fait un concept qui est défini dans la tradition germanique, qui est le concept de la hague, où en fait on produit du gibier et surtout on y attache beaucoup de soins en le nourrissant, en le surveillant, aussi bien les naissances que tout au long de l'année la présence du gibier, et surtout on ne récolte qu'un surplus récoltable. On n'est pas du tout sur, comme ça a été très longtemps traditionnel dans les régions méridionales, où on prélève le gibier quand il est là, parce que si on ne le prélève pas aujourd'hui, il ne sera peut-être plus là demain, et ce qui souvent est un gage de faible population, voire de très faible population, et on est dans cette région germanique sur un concept totalement opposé, où réellement on ne va chasser, prélever, et puis la notion de prélever est importante d'ailleurs, le mot en lui-même, prélever qu'un surplus récoltable. Tout ça pour en arriver à une conclusion selon laquelle, de mon point de vue, sur les 35 dernières années, 35-40 dernières années, cette administration partagée entre État, ONCFS, qui ne s'appelait pas ONCFS à l'époque, et Fédération des chasseurs, a eu pour but de restaurer un patrimoine faunistique, on l'a vu tout à l'heure pour Chambord, mais ça a été le cas partout en France, un patrimoine faunistique qui était quand même relativement en mauvais état, avec des populations de grands gibiers, que ce soit cerf, chevreuil ou sanglier, qui étaient ou se maintenaient très mal, ou qui même à beaucoup d'endroits avaient disparu. Et pour restaurer ce patrimoine faunistique, une des principales actions qui a été menée, ça a été d'éduquer les chasseurs, et en parallèle de mettre en place des contraintes, des normes, avec des dates de chasse, avec des modalités de chasse, et avec des quotas, avec des techniques de chasse qui ont été encadrées, qui ont pour certains été interdits, j'ai presque fini, de manière à favoriser à nouveau le retour puis le développement des populations de grands gibiers. Ça a très bien marché, ceux qui travaillent dans la faune sauvage le savent, ça a très très bien marché. On arrive même à une situation où il est très abondant, on ne sait pas comment faire aujourd'hui pour arriver à baisser ses densités, et arrive en 2009 un plan national de maîtrise du sanglier que le gouvernement français met en place en disant il faut changer les choses, il faut prélever plus, il faut prélever aussi bien les femelles que les adultes, il faut prélever les gros comme les petits, il faut en tuer beaucoup plus, il faut étendre les périodes de chasse au maximum. On arrive aujourd'hui à deux mois de fermeture de la chasse dans l'année qui vont certainement ne plus exister très longtemps. Je ne veux pas trop m'avancer, mais ça pourrait arriver avant longtemps. On demande aux chasseurs de chasser beaucoup plus, et on se dit, mais c'est bizarre, finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air motivés pour le faire. C'est la dernière diapo, je préfère vous rassurer. Je crois que ce qu'on oublie avant tout, c'est qu'on vient de passer 35 ou 40 ans à expliquer aux chasseurs que si on veut être un bon chasseur, on doit gérer, on doit préserver le gibier, on doit tout faire pour qu'il se porte bien et qu'il se développe. Et surtout, si on va à la chasse, on ne doit prélever que ce surplus récoltable. Et en quelques années, on a essayé d'inverser totalement cette politique, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut vraiment réguler les populations de sangliers, et c'est le cas partout en Europe. Et on leur dit, mais tuez plus. Cette notion d'éthique dont on a entendu parler tout à l'heure, après tout, même si on vous a dit que pendant 30 ou 40 ans, c'était pas très éthique de tuer les femelles quand elles avaient des petits, ou de chasser tard le soir, ou voire la nuit, ou avec des pièges. Mais faites tout ça, parce qu'il y en a trop. Sauf que on oublie vraiment une dimension qui est très importante, c'est que le chasseur n'est pas un agent de la régulation de la faune sauvage, c'est pas un agent d'un service public quelconque, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis quelconque, mais c'est en fait quelqu'un qui va à la chasse pour sa passion, pour son plaisir, qui en plus paie pour ça, mais à la limite c'est pas vraiment le sujet ni l'enjeu, mais on peut pas lui demander de changer ce qu'il pense au fond de lui. On a passé 40 ans à le changer, on a changé les chasseurs, sauf qu'aujourd'hui on en arrive à une situation où ça va être compliqué de les rechanger dans l'autre sens en leur disant de tuer beaucoup plus et de chasser différemment. Voilà, j'espère que c'était compréhensible.